7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous parlons cuisine avec notre partenaire, Chef Anto. Bonjour Anto Cocagne.
Bonjour Emmanuel.
Qui est en train de filmer pour sa page Instagram. Il y a un vrai phénomène en ce moment, Anto, qui est relativement nouveau, dont vous faites partie. On trouve partout des livres de recettes de cuisine sur le patrimoine africain, qui sont souvent d'ailleurs écrits par des diaspos, comme certains disent, dont vous faites partie, des personnes biculturelles. Et c'est l'occasion de donner une autre image de plats emblématiques. Ça peut être le mafé, le ndolé, le tiboudienne, peu importe. La cuisine fait-elle partie du questionnement identitaire? On va en discuter avec nos invités, qui sont des auteurs culinaires, et vous, bien sûr, les voisins et les voisines. Racontez-nous comment vous avez finalement hérité des meilleures recettes familiales ou des recettes du village? Comment on peut faire connaître les plats les plus populaires du continent? Est-ce qu'il faut revisiter les recettes authentiques ou surtout pas? Appelez-nous au 33 7 64 45 51 41. Donc à mes côtés, Anto Cocagne, qui a publié Good Afrique chez Mango Édition. Vous êtes venu avec une recette pour la fin de l'émission, Anto?
Oui, ce sont des boulettes d'igname.
D'accord, donc il faudra patienter jusqu'à la fin de l'émission. Également avec nous, Marie Kakoucha. Bonjour, Marie Kakoucha. Vous êtes chef, vous êtes autrice de cuisine d'Afrique végane, et c'est publié chez La Page. Et il y a une recette pour la fin de l'émission.
Absolument, des beignets de banane plantain.
Beignets de banane plantain, autrement dit aussi...
Claclo.
Ouais. Abdoulaye Djikine, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que je prononce bien?
Très bien,
ouais.
Djikine.
Ouais, Djikine, c'est bien ça, tout d'un coup j'avais un doute. Vous avez 29 ans, le Benjamin du studio aujourd'hui, vous êtes le cofondateur des restaurants BMK Paris Bamako, et vous publiez BMK Cuisine d'Afrique de Paris à Bamako, mais alors là c'est multi-auteur, hein, puisque ça va jusqu'au Kenya, Afrique de l'Est,
c'est ça.
C'est tout le continent.
Tout le continent, de Paris à Bamako, en passant par Lomé, Abidjan, toute l'Afrique.
Et c'est publié chez Hachette Cuisine, et il y aura une recette à la fin de l'émission.
Oui, le djouka.
Qui est un plat simple, populaire, pas très cher.
Voilà, c'est ça. Simple, ça dépend du niveau de chacun, mais ça reste très abordable. Quand même.
J'ai pas dit court à faire, hein. J'ai dit ça. À base de fonio et d'arachide broyé. Et bien sûr, des photos, des recettes à retrouver sur notre page Instagram, 7 milliards RFI. Et sur Facebook, il y a déjà les photos qui sont très alléchantes dès maintenant et les explications qui vont suivre. Et je vous lis quelques messages, je vous redonne d'ailleurs le numéro de WhatsApp, 33 7 64 45 51 41. Tout de suite un message de Midodzi qui a posté de Lomé au Togo.
Bonjour RFI, je suis au Togo ici. La transmission se fait par participation à la cuisine. Donc une jeune fille ou bien un jeune qui veut acquérir le patrimoine culturel, principalement de la cuisine de ses aînés, doit participer, apprendre à couper les condiments. Chez nous ici, la spécialité, c'est ademe, gombo et moyo ou bien ebessi. Donc, ce sont des sources qui demandent beaucoup d'attention et beaucoup d'implication. Dès que vous ratez une partie, c'est toute la sauce qui est gâtée. Donc, nous jeunes, nous participons. Et nous assistons, n'est-ce pas, nos aînés à faire la cuisine, ce qui nous donne une idée générale sur comment ça se fait. Et vu que, comment l'appelle-t-on, la sauce, ça se fait d'une maison à une autre, c'est-à-dire que ce n'est pas une cuisine qui est figée. Merci beaucoup.
Ouais, les sauces se font d'une maison à une autre, alors c'est difficile de s'y retrouver ensuite, hein.
Oui, d'ailleurs, des fois, ça peut faire naître des querelles en disant « c'est pas comme ça qu'on fait, moi, ma maman, elle fait comme ça ». Et puis l'autre, il dit « mais moi, ma maman, elle fait comme ça ». Donc, qui est la maman qui fait bien? Mais c'est ça la richesse aussi de nos cuisines.
Olivier, qui est à Kinshasa, nous dit « moi, j'ai appris à cuisiner par téléphone. Ma mère me dictait comment préparer tous les plats que je désirais manger. Et aujourd'hui, plus de 20 ans après, je sais bien cuisiner ». Et c'est resté, vous c'est pas votre cas finalement, Abdoulaye, puisque vous avez appris en voyant faire, en regardant votre maman.
En regardant et en pratiquant forcément.
Ouais. En France.
En France, c'est ouais. Ça, faut s'y mettre. Et c'est pas toujours facile d'avoir une mère qui donne des quantités exactes, des pesées exactes. C'est beaucoup de ah bah tu mets un peu de ci, un peu de ça. Et oui, du coup, il faut être à côté, il faut regarder, il faut goûter.
Ouais, l'intuition, mais comment reproduire l'intuition dans un livre de recettes? Ça devient compliqué. On va en parler, bien sûr. Et puis, on a en ligne qui nous appelle au 33 7 64 45 51 41. Insou qui est en Antananarivo à Madagascar. Bonjour Insou.
Bonjour Emmanuel et bonjour tout le monde.
Eh bien, on est ravis de vous accueillir parce que vous êtes restauratrice, hein, c'est ce que vous avez dit au standard. Et vous aussi, vous vous préparez la sortie d'un livre de recettes malgaches.
Tout à fait. Le livre est prévu sortir donc en 2023 sur les recettes de différentes régions de Madagascar. Nous en avons 23.
Ah oui. Mais parce que vous-même, vous vous êtes rendu compte que vous ne connaissiez pas très bien le patrimoine de l'île ?
Du tout, parce que dans mon restaurant, j'essaie de valoriser la gastronomie malgache depuis 2015, pardon. Et je me suis retrouvée juste avec quelques recettes et au plateau.
Oui.
Aussi, vraiment, c'était pauvre ma connaissance et j'ai décidé d'aller faire les recherches, d'effectuer les recherches auprès des détentrices dans toutes les régions de Madagascar.
Ah oui, donc vous êtes partie en voiture et vous avez sillonné l'île.
Voilà, c'est ça. J'ai commencé, j'ai pas encore fait toutes les régions, j'ai commencé l'Est et toute la partie Est et puis j'étais partie vers l'Ouest. Et rien que ça, il y avait pour 2500 kilomètres.
Ouais. Et il n'y avait pas comme ça un livre qui recensait vraiment toutes les recettes régionales de l'île ?
Non, de ce que je vois dans les archives, il n'y en a pas. Il y a quelques livres déjà qui sont sortis, mais sur des recettes surtout revisitées.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, on a un peu tendance ici à Madagascar d'essayer de rejoindre le goût de les papilles des occidentaux surtout. Et on a tendance à modifier la recette authentique.
Oui, oui.
Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de livres qui vraiment où est écrit et où est consigné ces recettes traditionnelles.
Ouais. Alors justement, vous avez mentionné au standard auprès de Delphine que vous avez eu au téléphone une recette, je crois, où on fume le poisson avec des écorces de noix de coco. Ça m'a intriguée.
Oui, tout à fait. Donc c'est ici, hein, vous savez, nous sommes une île et la plupart, pour conserver les poissons de mer, on le sèche avec du sel et on le met au soleil. Tandis que cette recette qui est le salbok, le poisson, il est fumé avec des écorces de noix de coco et qui donne déjà un goût très subtil et aussi une couleur un peu orangée au poisson.
Ah oui, d'accord. Et ensuite, on ajoute quelque chose à ce fumage ?
Non, rien du tout. Après, le poisson, il est préparé avec du moringa, les endives qu'on peut appeler aussi les aubergines blanches. Et on fait une réduction, un jus de poisson avec ses feuilles, c'est délicieux.
D'accord. Et cette recette,
mais rien d'autre.
Et cette recette, elle est de quelle partie de Madagascar ?
Elle est de Vatoumont, qui est à l'est de Madagascar.
Et donc, ça fera partie de la trentaine de recettes qu'on retrouvera dans votre livre ?
Dans le livre, il y aura 52 recettes, parce que je vais mettre une recette par semaine.
D'accord. Eh bien, bravo pour cette initiative. Hein. Vraiment, on est ravis de vous avoir eu au téléphone. Vous nous tenez au courant. Vous viendrez dans l'émission hein, quand le livre sera sorti.
Oui. Est-ce que vous avez déjà le nom du livre ?
Ça va s'appeler comment, Insou, le livre ?
Le livre, c'est toujours le voyage culinaire. Mais surtout, je vais aussi parler des gens et du lieu et des ingrédients dans le livre. Pas seulement les recettes, mais aussi des gens, des malgaches qui constituent ma patrie.
Ouais, qui font vivre ce patrimoine, même si, il ne faut pas oublier, ce n'est pas facile en ce moment en Madagascar de parler de cuisine et de patrimoine culinaire dans un pays où sévit une grave crise alimentaire. Merci d'avoir été en ligne avec nous, Insou. Très belle journée, Antananarivo. Merci.
Merci à vous. Au revoir. À bientôt.
Abdoulaye Djikine, deux restaurants à Paris, dans le 10e, dans le 11e arrondissement, avec votre frère, alors que la cuisine est plutôt une affaire de femme au Mali, en tout cas, à la maison aussi, non ?
À la maison aussi.
Et vous n'étiez pas du tout destiné à ça ?
Non. Pas vraiment, enfin, par les études du moins. C'est vrai que donc, j'ai fait une classe préparatoire, une école de commerce et je n'envisageais pas plus que ça de m'orienter dans le monde, le grand monde de la cuisine.
Donc le super bon élève.
C'est un peu ça.
Grandes ambitions. De vos parents pour vous. C'est ça.
Et la déception, leur apprendre que bah non, on abandonne tout et qu'on se lance dans la restauration.
Et en plus avec votre frère.
Avec mon frère. C'est vrai que pour la diaspora malienne, notamment en France, quand on parle de restauration, c'est un monde qui leur parle. Parce que dans les cuisines, on va avoir beaucoup de plongeurs, de commis de cuisine qui sont d'origine malienne. Et à leurs yeux, ce n'était pas forcément un milieu très, très noble auquel quelqu'un qui avait fait des études devait prétendre à la fin de ses études. Mais il a fallu les convaincre.
Avec un business plan.
Avec un business plan, c'était plus dur de les convaincre que les banquiers.
Mais plus difficile que les banquiers.
Non, mais c'était une approche différente. Mais c'est vrai que bah, forcément, les parents ont envie de sécurité pour leurs enfants et l'entrepreneuriat, que ce soit la restauration ou autre chose, c'est pas quelque chose de très rassurant. Mais quand ils ont vu notre enthousiasme et notre projet, celui de valoriser les cuisines de notre pays et de notre continent, ils ont été très rapidement derrière nous, ils nous ont soutenus, comme ils l'ont toujours fait d'ailleurs durant nos études. Et aujourd'hui, ils en sont ravis. Quand ils voient l'enthousiasme que les gens ont vis-à-vis des cuisines d'Afrique, que ce soit pour BMK, nos restaurants, ou pour les cuisines d'Afrique en général, on sent qu'ils sont vraiment fiers et heureux de voir la nouvelle place des cuisines d'Afrique en France.
Mmh. Et pour vous, Marie Kakouchia, vous êtes née en Côte d'Ivoire, mais en fait, vous avez principalement grandi en France. Comment vous êtes arrivée à la cuisine de vos parents, finalement ?
Comme beaucoup de personnes, c'est une fois adulte, on se retrouve catapulté hors du domicile familial et on prend son envol. Et pour moi, j'ai réalisé en fait que ces cuisines n'avaient pas beaucoup de place dans mon quotidien. Et ça a été vraiment une interrogation, un questionnement sur d'où viennent ces plats que j'ai consommés toute mon enfance, quelle est leur histoire et finalement comment me réapproprier ces plats en allant faire mon marché autour de moi, donc dans des supermarchés qui, a priori, ne proposent pas des ingrédients issus des cuisines d'Afrique.
Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous allez voir les éditeurs, c'est facile de proposer un livre de recettes de cuisine africaine ? Anto, pour vous ? Anto Coquel ?
Moi, en 2017, c'était pas facile. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand j'ai vu en 2021 qu'il y avait énormément de livres de cuisine africaine qui étaient sortis, j'étais plus que ravie, parce que je me disais, enfin, elles ont compris ces maisons d'édition. Parce qu'à l'époque, on nous avait dit, l'Afrique, ça vend pas. Mmh. Et c'est pour ça qu'on a vraiment travaillé sur notamment les photos. Alors, ce qui est bien, c'est que la styliste, c'est ce qui a fait le stylisme, en fait, c'est-à-dire donc la préparation des plats. Moi, j'ai donné les recettes, mais c'est quelqu'un d'autre qui a cuisiné et qui a mis en scène, en fait, les plats.
Ouais, c'est un métier, hein, le stylisme
culinaire. Tout à fait. Et c'est quelqu'un qui ne connaissait rien aux cuisines africaines. Donc, elle a découvert, en fait, c'est elle la première à avoir testé, découvert les recettes. Et le fait qu'elle n'y connaisse rien, en fait, ça lui a donné encore plus de liberté dans la façon de mettre en avant les plats. Et je pense que c'est ça aussi, parce que les gens mangent d'abord avec les yeux, et c'est vrai qu'il y avait, nos cuisines ont tellement souffert de préjugés, ça donnait pas envie, on sait pas trop ce qu'il y a dedans, c'est bizarre, c'est gras, c'est ci, c'est ça, que je pense que la force des nouveaux livres de cuisine qui sortent aujourd'hui, c'est d'abord même le visuel.
Ouais. Mais c'est vrai que quand il y a pas, c'est pas relié à sa propre enfance, eh ben, ce sont les yeux qui vont rassurer ou pas finalement, hein. C'est un peu normal d'ailleurs, hein. Probablement que c'est la même chose pour d'autres types de cuisine aussi. Des cuisines avec lesquelles on n'a pas de lien affectif, notamment. Mais Marie Kakoucha, pour vous aussi, vous aviez une styliste culinaire comme ça qui ne connaissait pas le patrimoine ?
Alors, du coup, la photographe de ce livre livre est Fatou Wagé, qui est malienne et qui connaissait du coup très très bien toutes ses recettes, en tout cas beaucoup de ses recettes, et j'ai fait le stylisme. Donc c'était aussi une conversation avec elle pour sublimer les plats, pour donner envie et surtout pour attirer l'œil de celui qui est novice et qui découvre les cuisines africaines.
Ouais, et pour les frères Djekiné, oui, comment ça s'est passé? Aller voir un éditeur, un très gros éditeur de livres de cuisine, Hachette.
Alors, pour tout vous dire, c'est Hachette qui nous a approchés. Et je pense que ça s'explique notamment du fait que des gens comme Anto ou par exemple le chef Bella Ola ont ouvert la voie et ont montré que ces cuisines avaient un réel intérêt, que les Français avaient un intérêt pour ces cuisines-là. Et donc, on a eu cette chance d'être approchés pour la publication de ce livre.
Alors, ceci dit, vous êtes assez honnête dans le livre, c'est-à-dire que vous essayez un peu de comprendre d'où viennent les idées reçues, etc. Et évidemment, c'est vrai que ce sont des cuisines de l'oral, hein, ces cuisines issues du patrimoine africain. Et vous écrivez, Abdoulaye, ou je ne sais pas si c'est vous ou si c'est votre frère, puisque vous avez écrit à deux, à quatre mains, mais c'est vrai qu'il y a d'innombrables variations qui existent pour un même plat africain. Vous écrivez, lorsqu'on évoque le bœuf bourguignon ou le gratin dauphinois ou la quiche lorraine, on sait tout de suite de quoi on parle en termes de composition, de préparation, d'origine géographique. Quand on parle d'un mafé, est-ce qu'on y met de la viande de mouton, de poulet, de bœuf, pas de viande du tout? Est-ce qu'on y met des tomates, du concentré de tomates, des gombos, des légumes de manière générale? Est-ce qu'on le sert accompagné de riz, de couscous, de fonio? Une chose est sûre, on peut répondre à chacune de ces questions par l'affirmative ou par la négative, sans dénaturer pour autant le mafé. Le mafé, c'est tout simplement une sauce à base de pâte d'arachide. Et ensuite, la recette variera énormément en fonction de la région, de l'ethnie, de la majorité religieuse, de la famille, du cuisinier, de la cuisinière. Vous avez vraiment bien résumé là, la complexité des patrimoines africains.
La complexité et la richesse. Ouais. Et c'est ce qu'Anto disait tout à l'heure. C'est, chacun va avoir sa version, chacun va avoir sa recette. In fine, c'est vrai que, par exemple, pour le mafé, il faut quand même une base qui va être la pâte d'arachide, faire un mafé sans pâte d'arachide. Bon, là, ça devient compliqué.
C'est compliqué.
Mais à partir de cette base-là, je pense qu'on peut en faire on peut le faire de la manière qu'on veut.
Ouais. Et concernant les préjugés, vous aviez le sentiment que les plats africains étaient, Marie Kachouchia, est-ce qu'ils étaient soit invisibles, soit mal compris finalement?
Oui, certains préjugés ont la vie dure, notamment le fait que ce soit très complexe, que ce soit difficile de trouver les ingrédients, que ce soit aussi quelque chose de nutritionnellement assez pauvre. On entend souvent dire aussi que c'est très lourd, très gras. Tous ces préjugés, en fait, viennent vraiment d'idées reçues. Et c'était intéressant, justement, d'aller un petit peu les taquiner, les interroger, de comprendre quels sont les fondements de ces préjugés. Et je dois dire que ce que j'ai constaté, en tout cas, c'est que parfois, c'est aussi entretenu par la diaspora qui, du coup, réserve ses plats à des moments particuliers, un peu les moments associés à la nostalgie ou aux fêtes. Et du coup, va pas du tout forcément
au quotidien.
Ouais, exactement. Ouais. Cuisiner ses plats, donc rendre accessible grâce au livre, c'est aussi une mission que j'ai décidé de prendre.
Ouais, Abdoulaye, vous aussi, vous en parlez, hein, de ces idées reçues, notamment sur des plats, une cuisine peu nutritive. C'est vrai qu'il y a deux extrêmes. Il y a les feuilles de manioc, qui sont effectivement des aliments pas très nutritifs et qui sont souvent utilisés justement dans des périodes de soudure alimentaire, enfin, qui sont dans des périodes où on n'a pas beaucoup de choses à disposition. Et au contraire, le fruit du baobab, là, vous dites, c'est le super, super aliment. Extraordinairement riche en antioxydants, en vitamine C, enfin, beaucoup plus que des produits qu'on pourrait trouver en Europe, par exemple.
C'est ça, il y a effectivement le baobab, le moringa qui a été évoqué, ouais, par l'intervenante précédente, comme le fonio. Ce peut être des produits qui sont même utilisés dans des programmes alimentaires parce qu'ils sont pas très coûteux, disponibles, et ils ont des apports, des bienfaits assez, assez incroyables. Donc oui, ce sont un peu les produits miracles qui sont encore trop méconnus. Et notre mission en tant qu'Africains, c'est de contribuer à la démocratisation, à la popularisation de ces produits, et qui sont en plus très bons.
Est-ce qu'il y a des préparations, Abdoulaye Djikiné, de vos parents qui ne vous ont pas laissé un bon souvenir?
Oui,
allez,
absolument.
C'est le moment de balancer.
Désolée, maman. Non, le gombo. Le gombo, quand j'étais petit, enfin même jusqu'à très récemment, je n'aimais pas du tout. Donc le gombo, c'est un petit légume vert, un peu gluant. On le prépare souvent en sauce, donc ça va être encore plus visqueux. Et avec le temps, j'ai appris à apprécier ce légume qui peut rajouter aussi beaucoup de texture, de liant dans des préparations. Et donc voilà, comme quoi les goûts...
Ouais. Enfin, vous proposez aussi de le cuire au four
pour
éviter de le...
Oui, il y a différentes façons, en fait, finalement. Je pense que tous, même dans la façon d'écrire les recettes, parce qu'on parle de recettes revisitées, mais souvent les recettes revisitées viennent de ces moments-là où enfant n'aimait pas un légume à cause de la consistance. Et donc, on a trouvé une autre façon de le cuisiner pour pouvoir l'aimer.
Oui, je vois Marie Kakoucha qui sourit là.
Le gombo, c'est pareil pour moi, ça n'a pas tout de suite été le coup de foudre.
Et c'était en fait, nos épinards à nous, quoi, c'est ça?
Peut-être, oui. Et aujourd'hui, je mange le gombo cru, mariné, cuit au four aussi, et c'est très bon.
Est-ce que vous avez fait les uns et les autres de vraies découvertes pour vos livres respectifs?
Oui, bien sûr. Ce qu'il faut savoir, je reprécise, nous sommes trois co-auteurs dans ce livre. Il y a également Marie-Lies Kaba, qui est d'origine malgache et qui nous a proposé des recettes comme les mofo sakai, qui sont des petits beignets à base de cresson. Et donc, dans des échanges avec elle, forcément, on a appris de nouvelles recettes, découvert de nouveaux produits. Et on a également proposé à d'autres chefs de rédiger des recettes dans ce livre. Et à travers ces recettes, on a découvert des produits, des façons de cuisiner. Donc oui, mais bien sûr, on en apprend tous les jours, également au restaurant d'ailleurs. On a souvent des clients qui viennent et qui nous parlent de tel produit, tel ingrédient, de tel plat qu'ils ont découvert à tel ou tel endroit.
Ah oui.
Et c'est vrai que par les échanges, on se rend compte qu'il y a un vrai enthousiasme autour des cuisines d'Afrique, une volonté de les faire découvrir à ceux qui ne les connaissent pas. Et oui, on en apprend tous les jours.
Et ça peut vous donner ensuite des idées pour élaborer un nouveau plat, par exemple?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Pour les plats du jour, il est arrivé plus d'une fois de nous inspirer de recettes de clients.
Ouais. Et pour vous, Marie?
Oui, absolument, parce que pour moi, ce livre, c'était vraiment une sorte de quête initiatique. Il est 100% végétal. Toutes les recettes sont végétales. Et j'ai en fait interrogé les personnes autour de moi pour avoir un petit peu leurs secrets, les secrets de famille, découvrir les recettes traditionnellement végétales. Mais aussi, je me suis imposée de sortir un petit peu de l'Afrique de l'Ouest. Parce que souvent, on dit africain avec un grand A, mais en fait, je ne sais pas du tout ce que c'est que d'être africain en Afrique de l'Est ou plutôt dans le Sud. Du coup, j'ai parlé à des personnes issues de ces diasporas et c'était très très intéressant parce que effectivement beaucoup d'ingrédients revenaient, mais j'en ai découvert aussi. Je pense par exemple aux épices berbérées que j'avais déjà vu passer, mais que j'avais pas vraiment découvert goûter, et donc c'était super.
Ouais, et puis ça élargit vous Anto qui sillonnez le continent africain, c'est aussi l'occasion de découvrir notamment de nouvelles céréales, de nouvelles façons.
Ah oui, complètement. Ben, le fonio moi je suis d'Afrique centrale, donc le fonio on l'a pas. Enfin les graines de néré qu'on appelle Netetou, Sumbala, Sumara, suivant les pays. C'est le mil, ce sont des produits que j'ai découverts lors de mes voyages en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est, voire aussi même dans nos cuisines. Il faut savoir qu'il y a aussi des influences qui sont dues à la colonisation, donc des peuples indiens ou même les peuples colonisateurs qui ont aussi apporté quelque part leur culture. Découvrir qu'il y a la feijoada au Mozambique, par exemple, des choses comme ça, ou au Cap-Vert, il y a de la feijoada au Cap-Vert.
Oui. Enfin, un plat brésilien.
Oui, en tout cas, on voyage. Les livres de cuisine, c'est fait aussi pour voyager sans bouger de chez soi.
Ouais, et transmettre, les voisins, les voisines, comment se transmettent chez vous les recettes dans la famille, au village? Que peuvent apporter selon vous les livres de cuisine? Sont-ils vraiment utiles? Quelle est la tête de votre grand-mère si vous lui dites que vous cuisinez un tiakri ou un yassa avec un livre, hein? J'imagine que, surtout le tiakri, en fait, c'est une bouillie au mil et au lait. Est-ce qu'il faut vraiment une recette? Tiens, ça, c'est la recette, elle est dans le livre BM. MK, hein, si je ne me trompe pas. Ouais. Eh bien, vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. On se retrouve juste après Coffee et ses notes jamaïcaines. Et surtout, n'oubliez pas qu'en fin d'émission, il y aura des super recettes pour inspirer votre assiette ou votre marmite.
Pull up another Rari, yeah. Be a feelings to my carry. Pull up another Audi, yeah. I ain't out watching nobody, yeah. Pull up another Cardi, yeah. I ain't out watching nobody but you. Pull up another Lada. Put me off the Benz and the Prada. And a couple brand new Ada. All of them fully don't matter. 0 to 102. Yeah, so I'ma flex on you. All in on my section view, I set on you. Then me get a text come true, so I'ma show you what my legs can do. Pull up another party, yeah. I ain't out watching nobody, yeah. Pull up another Rari, yeah. Be a feelings to my carry. Pull up another Audi, yeah. I ain't out watching nobody, yeah. Pull up another Cardi, yeah. I ain't out watching nobody but you. I don't play. You will never ever find another like me. Yeah, you should know you made my day. And I lost my hoes when you came my way. But you changed my mood. Oh, you're so rude. Yeah, then my tribe push up intrude. But you're well subtle and smooth. Yeah, yeah, yeah. Pull up another body, yeah. I ain't out watching nobody, yeah. Pull up another Rari, yeah. Be a feelings to my carry. Pull up another Audi, yeah. I ain't out nobody, yeah. Pull up another Cardi, yeah. I ain't out to nobody but you. Pull up another Lada. Put me off the Benz and the Prada. And a couple brand new Ada. All of them fully don't matter. 0 to 102. Yeah, so I'ma flex on you. All in on my section view, I set on you. Then I get a text come true, so I'ma show you what my legs can do. Pull up another party, yeah. I ain't out to nobody, yeah. Pull up another Rari, yeah. Be a feelings that my carry.
7 milliards de voisins, nous sommes en direct sur RFI pour concocter de bons petits plats autour de cette idée des patrimoines culinaires africains. On en discute avec Anto Cocagne qui a publié Goût d'Afrique, Marie Kakouchia qui est chef et qui a publié Cuisine d'Afrique vegan, Abdoulaye Djikiné qui est restaurateur, les fameux, les deux restaurants à Paris, BMK Paris Bamako, et puis maintenant le livre de recettes écrit à six mains, en fait. Hein. Pardon, je suis désolée, j'ai dit les deux frères Djikiné, mais en fait, il y a aussi effectivement Marie-Liès Cabaret. Là, ça fait vraiment le tour de tous les patrimoines de tout le continent africain, y compris l'Afrique de l'Est. Et je vous rappelle qu'en fin d'émission, il y aura des photos, des recettes plutôt à découvrir sur la page Instagram, mais aussi dans l'émission. Marie Kakouchia, vous avez fait le choix de recettes. Alors, vous avez dit pudiquement de recettes végétales tout à l'heure, mais en fait, c'est de la cuisine afro-vegan, comme on dit maintenant. Et c'est vrai que ça sent bizarre de parler de cuisine africaine végane sans produits animaux, hein, pour ceux qui ne sauraient pas ce que signifie ce mot. On a l'impression que c'est vraiment un concept qui vient de l'extérieur du continent, pour ne pas dire que c'est un truc de blanc, en fait. Alors, pour votre défense, qu'avez-vous à répondre ?
C'est vrai que j'entends souvent cet argument et c'est un petit peu un caprice de personnes qui jouent avec la nourriture, quoi. J'ai déjà entendu cette phrase et en vérité, justement, en discutant avec des personnes qui m'ont transmise leur histoire familiale, on se rend compte que ce n'est pas du tout anecdotique, bien au contraire, et qu'il y a beaucoup, beaucoup de plats qui sont authentiquement vegan, donc 100% végétaux, et c'est depuis très très longtemps en fait, que c'est pas du tout récent finalement.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Donnez-nous des exemples, parce que toutes les grandes recettes d'ailleurs qu'on retrouve dans les livres du patrimoine africain, c'est toujours quand même à base de viande ou de poisson.
Est-ce que
c'est
pas les grandes recettes
Non, mais j'ai les
mafées, plus connues, etc. Ouais. C'est vrai, les plus connues ici, mais on parlait tout à l'heure de feuilles de manioc, de beaucoup de ragoût. Il y a aussi beaucoup de galettes, beaucoup de salades, de soupes aussi, qui sont 100% végétales et qui ne sont pas du tout des créations modernes ou de la diaspora, justement. Et l'idée, c'est aussi, avec la véganisme, de remettre les aliments au centre de notre alimentation, justement, et d'aller chercher un petit peu des super aliments, comme on les appelle aujourd'hui, mais qui sont, depuis la nuit des temps, consommés dans ces cultures culinaires. Je pense donc au moringa, mais il y a aussi le kinkeliba, il y a beaucoup, beaucoup d'autres aliments qui sont, du coup, remis au centre, et donc on éclipse un petit peu la viande, la sacro-sainte viande, qui, en général, est un peu reine, quand même, dans l'assiette.
Justement, c'est un peu toute l'ambiguïté entre les plats de fête, qui forcément, dans toutes les civilisations, comportaient de la viande ou du poisson, et la cuisine de tous les jours, où dans toutes les civilisations aussi, il n'y avait pas forcément l'argent pour mettre de la viande et du poisson dans l'assiette, Anto.
Bien sûr, mais surtout que ça, la viande ou le poisson, ça coûtait cher, et il faut savoir que les familles, c'était pas des petites familles qu'on peut en voir en Europe avec papa, maman et deux enfants, donc ça pouvait être des familles avec une dizaine de personnes. Et donc forcément, quand on parle de viande, c'était un gros bœuf, une grosse chèvre, ça demande du temps, de la préparation, le poisson, il faut aller le pêcher et tout ça. Et ce qui fait qu'il y avait beaucoup de plats qui étaient véganes et qui ne comportaient pas. Moi, je sais que ma grand-mère, qui a vécu jusqu'à 100 ans, quand on allait chez elle, on pleurait pour avoir de la viande. Parce que si on allait un mois en vacances chez elle, bah, c'était beaucoup de recettes véganes ou avec un peu de poisson. Et c'était horrible pour nous qui avions l'habitude à la maison avec papa et maman d'avoir de la viande.
Alors, c'était quoi, finalement, à la base, légumes, céréales ?
Légumes, céréales, bah, par exemple, au Cameroun, par exemple, j'ai découvert le taro sauce jaune, qui est un plat emblématique de l'ouest du Cameroun, qui est du taro pilé avec sauce jaune, avec différentes épices à base d'huile de palme. Vous allez au Congo, il y a le ngaï-ngaï, qui est en fait les feuilles d'hibiscus, enfin de bissap, qui sont cuites avec des aromates, qu'on mange avec du manioc ou de la banane pilée. On a les feuilles de manioc, on a les haricots, qu'on mange souvent avec la pâte d'arachide.
Sont très nutritifs.
Qui sont très nutritifs, riches en protéines et qui remplacent très bien la viande.
Ouais. Absolument, beaucoup de légumineuses, beaucoup aussi de tubercules. Oui. Le matin, ou en tout cas pour commencer la journée, parfois beaucoup de bouillie aussi, à base de céréales, avec des beignets. Donc pas du tout de viande ou de poisson.
Ouais, donc vous avez raison, quand je disais légumes, céréales et légumineuses,
hein, oui,
c'est le triptyque.
Beaucoup de légumineuses, oui.
Mmh. Ouais. Mais alors quand on a un restaurant comme le vôtre, enfin deux restaurants, Doula et Jikiné, là on propose systématiquement des plats qui sont assimilés aux plats de fête, c'est-à-dire viande ou poisson ?
Non, pas systématiquement. On propose des versions végétariennes ou véganes, aussi bien pour les plats que pour les entrées ou les desserts. Parce que comme le disaient Marie et Anto, la viande, initialement, c'est quand même un produit coûteux. C'est-à-dire que mes parents me racontent que quand ils étaient petits, ils avaient de la viande que pour les fêtes. On n'allait pas chez le boucher acheter ces morceaux de viande. Il fallait abattre un bœuf ou un mouton. Et ça, on ne le faisait pas tous les jours. On le fait pour des occasions particulières. Et donc, pour nous, dans les restaurants, c'était normal de proposer ces alternatives véganes pour nos clients. Parce que ça fait sens, parce qu'il y a une demande. Et parce que y a aussi une conscience écologique de plus en plus importante.
Ouais, on n'en a pas encore parlé, mais il faudra forcément consommer moins de viande dans l'avenir, et également de poisson. Et ça tombe bien, parce qu'avec la flambée des prix sur le continent africain, ça va, et pas que, ça va arranger tout le monde. Alors, par exemple, vous donnez la recette, Marie Kakouchia, d'un ragoût sud-africain qui s'appelle le chakalaka. Oui. Je ne vous demande pas la recette de mémoire. Mais est-ce que ce ragoût sud-africain, qui est avec des légumineuses, des haricots blancs cuits, des pois chiches, des oignons, du poivron rouge, enfin des légumes, des petites tomates, etc. C'est vrai que ça a l'apparence d'un petit ragoût, mais il n'y a pas de viande dedans. Est-ce qu'à la base, il a été pensé sans viande ou c'est vous qui l'avez transformé ?
Oui, celui-là, effectivement, c'est un plat sans viande, mais par moment, effectivement, j'ai omis la viande pour proposer une alternative qui soit à la fois simple et qui soit végétale, du coup.
Ouais, le Yassa Burger, alors là, c'est un truc qui est né dans votre imagination.
Je le confesse, oui, absolument.
C'est quoi exactement ?
Alors, du coup, là, c'est vraiment une interprétation et un petit peu une création. Et c'est un mélange entre une galette faite à base de légumes légumineuse et l'associer à ça, donc avec vraiment les oignons confits, compotés, et puis des aliments un peu plus à la mode, j'ai envie de dire, donc l'avocat, il y a aussi des pousses d'épinards, donc c'est une façon de montrer qu'on peut manger végétal, africain, sans que ce soit vraiment quelque chose de triste, voilà, c'est pas une cuisine sans, mais au contraire avec beaucoup de diversité, de curiosité.
Et le pain sucré,
et
que
le
tout
pain
le monde
sucré.
Connaît.
Oui, et le pain sucré, ça, vraiment, c'est un souvenir d'enfance, mais variée. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, comme au Ghana, comme je crois aussi au Togo, on mange beaucoup ce pain qui est moelleux, qui est un héritage d'ailleurs de la colonisation anglaise et qui habituellement est plutôt quelque chose qui va être un accompagnement. Et là, je voulais le mettre au centre du plat.
Ouais, alors je sais que parfois vous aimez bien dire qu'il faut décoloniser nos assiettes. Là, en l'occurrence, vous n'avez pas décolonisé l'assiette.
On réécrit l'histoire.
Mais qu'est-ce que vous entendez par cette expression « décoloniser l'assiette » dans le fond ?
C'est vraiment, comme je disais, remettre au centre de son assiette des aliments qui sont très loin physiquement, où on a l'impression en tout cas qu'ils doivent être réservés à des moments particuliers. Et là, aujourd'hui, c'est comment au quotidien je peux consommer les plats traditionnels ou les aliments traditionnels. Et aussi une dimension de fierté, vraiment ne pas attendre que le marketing passe par là pour estampiller certains aliments, pour qu'ensuite on se les réapproprie.
C'est ce que j'allais dire finalement, la colonisation culinaire, c'est la colonisation de l'industrie agroalimentaire. Pas spécifique à un pays d'ailleurs.
Pas spécifique à un pays. Ben, quand on voit maintenant des gens qui font de mafé mettre de la crème, excusez-moi, ça, il faut le décoloniser ce plat. On ne met pas de crème dans un mafé ou d'autres qui vont mettre du beurre dans certains de nos plats. Je pense qu'il y a des codes quand même qu'il faut respecter, des choses qu'on ne met pas, qu'il ne faut surtout pas mettre pour garder aussi un peu d'authenticité. Parce que je pense que nos plats n'ont pas besoin, ce que souvent c'est l'idée que certains ont, c'est qu'il faut forcément rajouter des choses qui viennent d'Occident pour que ça soit bon. Mm-hmm. Et je pense qu'avec que des produits issus de l'Afrique, on peut faire des bonnes choses.
Ouais. Remettez-moi les messages sur l'écran. Là, je parle à l'équipe technique parce qu'il y avait un message d'un auditeur un message de Mamadou qui nous écrit de Nouakchott et qui nous dit « Ah, vous nous avez pas raté aujourd'hui en nous en saliver en plein Ramadan. Toutes nos excuses, mais on est vraiment, vraiment désolés. C'est vrai, mais pour tout à l'heure,
on parle que de
il y aura plein d'idées pour ce soir, pour la rupture du jeûne. Et bien sûr, on est de tout cœur avec vous. Mais c'est vrai que de toute façon, quoi qu'il arrive, on parle cuisine une fois par mois dans cette émission avec Chef Anto. On va bientôt passer aux recettes, puisque c'est ce qu'on vous a promis. N'oubliez pas d'aller sur notre page Instagram. Les recettes sont déjà sur la page. On commence les recettes. Alors, je crois que c'est vous, Abdoulaye Djikiné, qui avez la recette la plus, on va dire, la plus... on disait que les cuisines africaines n'étaient pas nécessairement compliquées. Elles peuvent quand même être relativement longues. Et vous allez nous donner la recette du djouka avec vos astuces, bien sûr.
Oui, en effet. Alors, le djouka, c'est un plat qu'on retrouve notamment au Mali. Donc, c'est un plat qu'appréciait particulièrement mon père quand il était jeune, à tel point que lorsqu'il était petit, en fait, il mangeait donc, le djouka à la main, forcément, et qu'il refusait de se laver les mains pour en garder l'odeur, le parfum pendant toute la journée.
C'est beau, ça. Voilà.
Et oui, et donc, c'est un plat donc, avec une base de fognon. Qui sont des céréales traditionnelles, notamment d'Afrique de l'Ouest, très riches, comme on le disait, d'arachides broyées, d'arachides pilées. Donc ça va servir de base, servi avec une purée de gombo, dont on parlait, une purée d'oignons et du poulet qui peut être frit, qui peut être au four. Dans cette recette-là, on va la proposer frite.
On va pas pouvoir raconter l'intégralité de la recette, mais il faut quand même bien décrire les grandes étapes.
Voilà, les grandes...
Évidemment, on fait mariner le poulet.
On fait mariner le poulet en amont.
Enfin, avec
c'est toujours recommandé de toute façon dans toutes les recettes. On vous recommandera toujours de mariner en avance le poulet, ouais. Laisser reposer au minimum 2 heures.
D'accord.
Minimum,
vous mettez de la moutarde pour faire mariner le poulet.
Oui, ouais. Absolument. C'est très très commun. C'est vrai que c'est une question à laquelle j'ai pas la réponse. On a la moutarde, notamment la moutarde de Dijon, qui est très présente en Afrique. Et on se dit, on se rend compte des interactions, des liens. De...
Ouais. Bon, alors, si on veut décoloniser le djouka, donc qu'est-ce qu'on mettrait à la place ? Anto, qui a tout réponse à tout.
Pour remplacer, pourquoi pas la moutarde africaine, ce qu'on appelle nététou, ouais, graines de néré, pourquoi pas, il faut tester pour voir si ça marche aussi.
Et alors ensuite le fonio, vous le passez à la vapeur, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est bien ça, on les fait tremper dans...
Mais il y a deux cuissons.
Il y a deux cuissons, enfin on pourrait même dire trois, on les fait tremper dans de l'eau, ensuite première cuisson à la vapeur, puis seconde cuisson.
Et pourquoi ça, il faut deux cuissons pour le foyer?
C'est pour réhydrater au mieux. C'est pas un passage obligatoire.
D'accord.
Mais ça permet une meilleure réhydratation des grains.
Ouais.
Donc ça, c'est pour le fonio. D'autre part, on a les arachides, donc les arachides qui sont traditionnellement pilées. Mmh. Nous, dans notre cas, on va les broyer au mixeur, qu'on va également passer à la vapeur, au couscoussier. Et ensuite, on va mélanger les deux. Donc là, on va avoir notre base. À côté, donc, on prépare une petite purée de gombo. Donc il faut préparer les gombos, les équeuter, les faire cuire dans de l'eau, les battre, ajouter une petite pincée de sel, un peu de citron. Et on va avoir les oignons, donc les faire revenir avec quelques épices. Et le tout est donc servi avec un poulet qui est donc préalablement mariné, qui est ensuite frit, mais qui peut très bien être cuit au four.
Ouais, une petite astuce qui vient de votre maman, qui n'a pas valeur scientifique.
Ah, pour c'est le bicarbonate. Oui, c'est son explication aujourd'hui, je sais pas si c'est vérifié, mais c'est vrai qu'elle, selon elle, ça apporte de la couleur au plat.
Pour l'arachide, hein,
pour,
c'est ça, pour la cuisson.
Pour l'arachide et le fonio. Oui, pardon, pour l'arachide.
Donc de la poudre de bicarbonate de soude. Alors c'est vrai que quand on cuit les haricots verts, moi j'ai aussi appris ça, le fait de mettre de la poudre de bicarbonate de soude dans l'eau de cuisson fait que les haricots restent bien verts vifs.
Oui.
Voilà, très belle. Très belle couleur. Alors évidemment, la recette pas à pas, elle est très très bien décrite. Il y a beaucoup de photos, c'est très didactique dans le livre. À retrouver évidemment, Abdoulaye. Marie Kakouchia, Benet de banane plantain, Claclo.
Oui, c'est ça. Et c'est un petit clin d'œil à la street food, à la cuisine de rue qui est très très présente en Côte d'Ivoire et j'ai envie de dire en Afrique en général. Et c'est aussi une recette zéro déchet pour parler de façon un peu plus actuelle parce qu'en fait ce sont des bananes qui sont très mûres qu'on va récupérer pour faire les beignets. Donc il faut à peu près...
On utilise la peau aussi ?
Non, sans
non,
la peau.
Non, quand même pas.
Voilà, juste ces bananes, la pulpe du fruit. On va prendre des bananes très mûres, donc 4 bananes. On va les écraser. On assaisonne avec du piment, paprika, au piment. Alors, il faut y aller avec le piment fort si on aime ça, ou le piment végétarien si on n'aime pas trop la chaleur du piment. Échalotes hachées, un peu d'ail, du gingembre râpé. On mélange tout avec entre 3 et 4 cuillères à soupe de farine classique. On fait.
On roule dans la farine.
Alors, on ajoute la farine dans la préparation, dans l'appareil, donc de bananes écrasées. Et ensuite, on va avoir une pâte assez ferme pour former des boulettes qu'on va faire frire dans un bain de friture. Donc, voilà,
et
c'est une recette très,
doré,
très, très simple.
Croustillant.
Exactement. Et pour ajouter un peu plus de croustillance, ma sœur mettait du riz, en fait. Quelques grains de riz à l'intérieur, ça croque sous la dent, c'est fameux.
Pas mal. Merci beaucoup. Anto, boulette d'igname.
Oui, ce sont des boulettes d'igname farcies. Donc, pour 6 personnes, il faut à peu près 2 kilos d'igname. C'est farci avec de la viande hachée, mais après, si on ne veut pas de viande hachée, on peut remplacer par autre chose, une tombée de légumes, par exemple. Et donc, notre igname, on va l'éplucher, on va le cuire à l'eau ou à la vapeur pendant une bonne vingtaine de minutes. Et une fois que les morceaux sont bien tendres, alors le mieux, c'est de les piler au mortier, parce qu'on a vraiment cette texture bien fondante et qu'on aime bien dans une sorte de foufou. Mais après, on peut l'écraser au presse-purée et la viande hachée, donc dans un saladier, on va l'agrémenter donc d'oignons, d'ail, un peu de jaune d'œuf. On va mettre aussi les épices qu'on aime. Et ensuite, on va faire des boulettes avec la viande et on va le recouvrir, cette viande-là, justement de la purée d'igname. Et il ne restera plus qu'à l'enrober de gari, donc la semoule de manioc, pour apporter un peu de croustillant et faire cuire tout ça dans une poêle. Et ça, c'est un truc que je conseille en apéritif ou en entrée chaude avec une sauce tomate relevée ou de la salade verte.
Délicieux. Et si on n'a pas de gari sous la main?
Si on n'a pas de gari, pour apporter le croustillant, ben, on peut mettre de la chapelure, par exemple. La
de
chapelure
pain.
De pain, du pain rassis,
voilà,
qu'on pile,
écrasé,
ça fonctionne aussi.
Eh bien, merci infiniment pour toutes ces recettes qui sont à retrouver sur notre page Instagram. Avant de se quitter, on a une voisine qui nous appelle de Dakar, Meguia, qui est au téléphone avec nous. Bonjour Meguia.
Bonjour Abenya.
Vous avez dit au Standard que vous aussi, vous rêvez d'écrire un livre sur les desserts africains.
juste exact. Il y a un constat, c'est que les déserts médicaux ne sont pas très connus.
Oui, c'est vrai.
J'ai envie de partager ces recettes qui ont marqué mon enfance. Alors,
à quoi vous pensez, par exemple, Meguia?
Mon préféré, le ngalakh, qui est partagé entre les chrétiens et les musulmans au Pâques, pour fêter le Pâques.
Oui.
Il y a aussi le mukhamsa, à base de tumoun, de blé dur.
Ouais.
Le sousala, qui peut être fait avec de la farine de riz ou du mil. Il y a aussi la confiture de mad avec de la mangue.
Ah oui, confiture de mangue, c'est ça?
Oui.
Et mad,
Et des mads, les mads, c'est
un fruit.
Ah oui, d'accord.
C'est un fruit que l'on appelle...
D'accord, d'accord. Merci Meguia. C'est vrai que ça manque, hein. Un livre sur
sur le sucré
du patrimoine, parce que là aussi, ça fait partie des nombreuses idées reçues de dire il y a pas de dessert dans le patrimoine culinaire africain, mais en fait, d'abord il y a d'innombrables bouillies sucrées avec des laits, etc. Hein. Il me semble que d'ailleurs vous en donnez quelques recettes, Abdoulaye.
Oui, il y a le tiakril, il y a effectivement le ngalakh dont parlait l'intervenante. Que je ne connaissais pas non plus avant la rédaction de ce livre. Et c'est une de nos collègues qui nous a dit il y a un super dessert que peu de personnes connaissent. C'est l'occasion d'en parler.
Bon, Meguia, on attend le livre. Alors, il faut vous y mettre dès maintenant. Merci à vous de nous avoir appelés de Dakar. Et merci à vous tous. Anto Kokagne, vous avez publié Goût d'Afrique. Marie Kakouchia, Cuisine d'Afrique végane aux éditions La Plage. Abdoulaye Djikiné. Il y a bien sûr les deux restaurants à Paris, BMK Paris Bamako, et puis BMK Cuisine d'Afrique de Paris à Bamako, chez Hachette Cuisine. Et ça fait partie de l'innombrable collection maintenant de livres de cuisine qui concernent le patrimoine africain. Voilà, on avait trois échantillons aujourd'hui. Merci d'être venu.
Merci.
Merci à vous. Beaucoup.
Demain, l'émission est consacrée aux recherches d'emploi. Alors, si vous êtes jeune diplômé, c'est le moment de poser toutes vos questions à nos spécialistes emploi. Comment parler de votre parcours, de vos compétences, de vos objectifs professionnels? Contactez-nous surtout dès maintenant au 33 7 64 45 51 41. On se quitte avec The Allergies et Andy Cooper chez 7 milliards. I wanna have a little time and innovator. Wrote a hit, I need to put it out and let it emanate. I'm molded every letter, got a bending like a centipede. Remedy an enemy, amend them into mini-me. Started becoming animated when the money made it. I'm a jaded man, a hater, but I'm running unabated. And I'm rhyming up a pen, I'm rhyming into gigging any line. I'm bringing any man that I'm in, you can dig it. When I'm handling a crowd, then I stand up in a bow. Got them damming like the Panama Canal. Second to none, the second I'm done. Exhaling every breath that I get in my lung. And you can take it like a rhythm and a rhythm and adrenaline. Disseminating lingo, then I'm bringing in a synonym. And many men and women tend to bend to do the minimum. I get them on my pen and then I'm winning, then I'm winning again. Andy Cooper coming out of the blue like a boy named Sue saying, how do you do? I got a beat that's like bare feet on concrete. Hot! Burning out of Long Beach all the way to Zaire. I don't wanna lie here. When I get an idea, put it into high gear and ramble on. I'm on a beaker roll, but I'm a bag of moment. I get on to do another show. No quitting me. Never had enough. Float with a beat like an aqueduct. So quickly. Let my rapper rub, no diggity. I got to bag it up. Pump a time bomb, taking the blood with the get up and go to the little middle man to bring the rig of my roll. On the rhyme, on the set, going live in the wreck, when the vibe in the pick, better dive on the deck. When I ready to roll. You wanna get the party going? Anybody let me know, cause I'm a bad man with the ham and the mic. You need to come and see me rip it to the end of the night. You wanna rock, rock, out of control. With everybody going at it when I put it on the show. I've been waiting on the side for my moment to arrive. I'm a rocket with my people and you know we're gonna fly. Let's go! Given if you want a disc, cause I audibly gotta be on the front of any list. When I hit him like, throw him a jab, got him dazed by the phrase that I wrote on my pad. Coming with a right, knock you out, I keep bringing the pains at the end of the bow. My lips are the lighter, igniting the wick that I lit when I spit all the fire. And there can never be another imitating me when I kick an analytical and hit it, baby D. I'm light skinned, enigmatic, and I never get erratic. And I love a second to the cinematic when I'm at it. I can take a bit of predicate to whip it into shipping and integrate a group of one to ventilate. At any rate, I got him on the ropes in a day. 7 milliards de voisins, c'est fini.